La question du front sud avec l'Égypte, puis celle du front nord, de telle sorte de desserrer les taux. Et il y avait des pourparlers avec Russell pour lui demander surtout ne bouge pas parce que ça risque de te coûter cher. Et donc Israël a attaqué, il a attaqué au sud, et Hussein a fait cette espèce d'imprudence de rentrer dans la guerre. Et jusqu'au dernier moment, par l'intermédiaire de l'ONU, le gouvernement israélien a supplié Hussein de ne pas bouger. Et Hussein a fait une fila. Il a déclaré, enfin il s'est mis à bombarder Jérusalem, je ne sais pas si vous savez. Et finalement, c'est comme cela que nous avons eu Jérusalem à la date qu'il fallait. Vous voyez que Hussein était un shaliach mitzvah. C'est important à comprendre qu'à l'époque, les Israéliens n'avaient absolument pas l'intention de conquérir Jérusalem, enfin de libérer Jérusalem. Mais pas du tout. Ça leur a été imposé. Et dès le lendemain, ils ne savaient plus comment faire, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces territoires. Vous voyez, c'est imposé. Alors, c'est pourquoi je vous dis que ce n'était pas nécessaire d'attendre tout ce temps-là si on avait mérité avant. C'est pourquoi vous verrez toutes ces traditions qui disent que, à travers les siècles, on a donné très souvent, et en toute bonne foi, la date du retour possible, d'un événement messianique possible. Et c'est effectivement des dates possibles, mais on ne les a pas méritées. Alors elles ont échoué l'une après l'autre. Et aujourd'hui, nous sommes à une date où ça ne dépend plus du mérite. C'est la loi des temps qui joue. C'est ça que nous les mettons en évidence, ça nous est imposé. Je pense que c'est clair. Bien. Alors, en tout cas, revenons à notre verset 14. Et après, gardez cette première référence. Après, je reviendrai au verset de la naissance de Joseph. Alors. Lecha veshlachacha aleim, va et je t'enverrai vers eux. Vayomerlo ineni, et il lui dit, me voici. Vayomerlo, et il lui dit, lechna va, re et Jacob parle à Joseph, re et shalom achecha, va voir la paix de tes frères, ve shalom atzon, et la paix du troupeau, va shiveni davar, et ramène-moi une parole. Ça veut dire, tant que Joseph ne peut pas dire à son père, il y a la paix entre nous, Joseph ne reviendra. Et effectivement, ce n'est que beaucoup plus tard, entre-temps, il va être descendu en Égypte par les caravanes, toute son histoire en Égypte va se développer comme elle va se développer, et ce n'est que quand il y aura la réconciliation entre Joseph et ses frères, qu'ils pourront se dire shalom, la paix, vous montrerez où est le verset. Alors à ce moment-là, Joseph peut parler à Jacob et va lui faire dire « Je suis vivant et à la paix entre vous. » Et alors, c'est la fin du verset que nous avons étudié. « Vaishaleche ou me'emek Hebron, vayarosh Chema. » Et il l'envoya de la vallée de Hebron et il arriva à Shrem. Regardez ce que dit Rashi à ce propos. « Vaishaleche ou me'emek Hebron. » Vous avez Rashi sous les yeux? Mais Mekhebron, qui veut lire Rashi, essaye.
Banu Hebron Baha.
Très bien. Alors Rashi pose une question, il cite un midrash d'ailleurs. Mais n'est-ce pas que Hebron est sur la montagne? Comment tu peux dire de la vallée de Hebron? Vous dites, j'ai compris la question. Je n'ai marre. Puisque nous avons un verset qui dit « Ils montèrent du Negev et ils arrivèrent jusqu'à Hebron. » Pour arriver du Negev à Hebron, il faut monter sur la montagne. Okay? Et qu'est-ce que tu me dis? Il l'envoya de la vallée de Hebron. Il y a donc là une indication. On va s'accrocher au texte pour une indication importante. Et là, mais ça veut dire « Mais etza amuka » de la pensée « amuka » profond. « Aemek » ça veut dire la vallée. C'est la même racine que « amok » qui veut dire « profond ». La vallée. Ça veut dire qu'il l'a envoyé à partir du projet profond chez l'autotzadik de ce juste qui est enterré à Hebron. Qui c'est ce juste qui est enterré à Hebron? Abraham. Continue. Les cahiers et machins. Pour réaliser
ce qui est dit.
à Abraham dans l'alliance de Ben Abetarim, qui guérit Zarach. Alors, est-ce que dit Rashi? Lorsque Jacob s'aperçoit qu'il n'y a pas paix entre les frères, alors il se dit donc, le travail de l'exil n'est pas achevé. L'exil a commencé quand? Quand Caïn a tué son frère. Et je reviendrai sur le point de départ. Et par conséquent, et c'est le point important que nous allons voir tout à l'heure, quand Rachel voit Joseph, elle sait que la faute de Caïn est mardi. Racheter, c'est pas le mot.
Excuse.
Ma. Bon, vous avez compris l'idée. Et pourquoi? Parce que la cause de la galoute, c'est la haine des frères. Bon. Et c'est pourquoi Jacob dit tout de suite, quand Joseph est né, il dit à Laban, la galoute est finie. Je rentre. C'est clair? Alors je continue encore un peu. Dans cette analyse, Jacob est rentré, il s'installe, mais il voit que c'est pas fini. Alors c'est lui, Jacob, qui prend l'initiative d'envoyer Joseph chez ses frères qui étaient à Shrem, en sachant très bien que le résultat va être qu'ils vont l'envoyer en galoute. Ok ? Vous voyez comment la galoute recommence. Ça y est, vous avez accroché le problème. Alors, je reviens donc premièrement à l'essentiel. Jacob était en droit de penser, premièrement, que sa galoute chez Laban avait réalisé la dimension de galoute nécessaire à Israël. Finalement, il y a un inachevé qui se dévoile de cette manière. Il faut recommencer la galoute, en particulier parce que la cause immédiate de la galoute est toujours là. Il n'y a pas encore la paix entre les frères. Alors, on revient maintenant au point de départ. Reprenez le texte du chapitre 30. Et prenez au verset 24. Lorsque cet enfant qui est Joseph va naître. Verset 24. Lamed Kavdal. Vatikra et Shemo Yosef. Et elle nomma son nom Joseph. Les morts. Pour dire Yosef Hachem Li Ben Acher. C'est une chose auquel on ne fait pas toujours attention. Joseph est nommé du souhait de Benjamin. Vous remarquez cela? Que Dieu m'ajoute un autre fils. Alors qu'est-ce qui se passe? Javel. Vous rappelez, à propos de Havel, le verset dit va tosef la levet, tosef, Yosef, va tosef la levet, et achiv, et Havel. Finalement, quel est le contenu de cette prophétie de Rachel? Elle voit un fils premier-né, Joseph, qui est capable d'être frère. Alors elle souhaite avoir un autre fils, il ne sera pas en danger. Vous voyez que c'est à la naissance de Joseph, c'est la fin de cette histoire qui commence avec Caïn et Havel. C'est clair? Ça se résout dans Joseph et ses frères. En fait, il faut le réaliser, cela est perçu en potentiel, il faut le faire, en fin de compte, à la fin de la galoute de cette famille, Joseph et ses frères se réconcilient. Et c'est là qu'Israël est en exil d'Égypte, mais en dispersion d'Égypte, mais dans la gloire. Le souvenir de Joseph est que c'est le peuple de prêtres de la civilisation du temps. Et de nouveau, les événements recommencent, dans la mesure où Israël en Égypte n'est pas à la hauteur de sa tâche, il s'assimile à l'Égypte, etc. L'antisémitisme égyptien recommence, Moïse doit intervenir pour dire oui, vite, et faisons. Vous voyez donc le déroulement des événements, c'est clair? Il y a d'ailleurs un diouk supplémentaire. Si vous voulez que je vais vous ajouter, elle aurait pu dire que Dieu lui donne un frère. Mais il y a ici quelque chose de plus. Au point de départ, il y avait Caïn qui était le fils, et Abel était que le frère. Mais là, les deux seront fils. Et la relation de fraternité sera résolue. C'est pourquoi elle dit que Dieu m'ajoute un fils, Ben Achel. Comment?
Le parallèle est entre
Binyamin et Abel. Et entre Yosef et Caïn. Mais Yosef, c'est un Caïn qui est capable d'être frère. Dans toute son histoire, on voit qu'il est le fraternel. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche ses frères. Comme Moïse peut par la suite. Vous avez compris? Bien. Alors, ça, c'est pour la première explication. Anus al-Piadibou, c'est la Gada, c'est-à-dire que Jacob était obligé de descendre en Égypte à cause de toute cette histoire qui vient de cette parole dite à Abraham, savoir, tu sauras que ta descendance. J'ai un peu développé pour vous montrer comment les péripéties se sont développées. Maintenant, j'espère avoir suffisamment fait comprendre la nécessité de cette descente en Égypte. Ok ? Ça va ? Bon. Vous avez encore une question là-dessus ? Vous êtes endormi ? Vous êtes endormi ? Prenez le texte. Et Vayere Mitzraïma, Anous Alpiadibou, Wadiber, selon le texte. Vayagor Sham. Vayagor Sham. Et il séjourna là-bas. Alors l'Agada explique, Vayagor, le verbe, la gour, ça signifie séjourner. Mais le sens ici, c'est provisoirement. La gour, ça veut dire séjourner provisoirement. Le verbe qui signifie séjourner définitivement, c'est la dour. Dour. Par exemple, dira. Une dira, c'est dira tkeva. La gour, c'est séjourner provisoirement. Faites bien attention à cela, la Haggadah insiste. Jacob est descendu pour séjourner provisoirement, mais à gorge, mais ses descendants se sont installés dans la perspective de définitive. C'est la raison pour laquelle il y a eu la catastrophe. Vous avez compris?
Il y a des références
au texte. Hein? Vous avez dans vos... C'est le verset qu'on est en train d'étudier, vous l'avez dans vos versets. Oui. Je reprends le verset. Shenemar, Arami, Ovedabi, Vayered, Mitzraima, Vayakor, Sham, Imtemehad, Vayi, Sham, Nego, Igado, la son. Ça doit être dans Shemot, ce verset. Hein? Vous travaillez comme des apprentis sorciers. Vous travaillez comme des apprentissages. Oui, Deutéronome, chapitre 26, verset 5. Vous voyez, vous avez la référence là. Aramir Bedavi, Vayere, Mitzraïma, Vayagor, Shamim, Tenea, Vayisham, Egoyado, Atumara. Ok ? Alors, vous avez la référence ici. Alors, maintenant, la Gada explique chaque expression pour elle-même. Vayere, Mitzraïma, Anous, Rapéadibou. Ok ? Vayagor Sham, et il séjourna là-bas, continuez, mais la Mède, ça nous apprend, chez Lo Yarad, l'Ishtakea, il n'est pas descendu pour s'installer, et là, la Gour Sham, mais pour y séjourner. Bon, je vous ouvrirai un petit peu ce sujet. Il y a donc une différence entre être dans la situation provisoire. En particulier, on aura étudié précisément à propos de Yom HaAtzmaout un enseignement de la Gemara qui se trouve dans Ketubot. Page 110. Et qui dit ceci. Kol Hadar. Et כאילו עובד עבודה. הגמרא דיס, on étudiera ce texte qui est très important, tout celui qui habite en חוץ לארץ est comme s'il était idolâtre. Alors regardez bien le terme employé par la Gemara, c'est kol hadar. Ça veut dire celui qui se considère comme séjournant définitif. Celui qui est biprinat gar n'est pas considéré comme parce qu'il se considère comme Jacob descendu en Égypte, je suis du pays de Canaan, mais je suis provisoirement pour. J'ai compris la précision des termes. Okay? La différence entre dar et gar. Alors gar ou dar. Et c'est aussi. Qui c'est que vous voulez poser une
question?
Oui.
J'ai
compris
avant,
c'était. Alors, Vayagor Sham, Melamed, Shelo Yaral, Ishtaker, et la Gour Sham, Shenemar, d'après un autre verset, lorsque les frères de Joseph sont arrivés en Égypte, Vayomru El Paro, ils disent au Pharaon, la Gour Baaretz Bar, nous sommes venus séjourner dans le pays. C'est clair? Kien Minaer Atson Asher Avalecha, parce qu'il n'y a pas de. Parce qu'il n'y a pas de Mirae, de pâturage. Pour le troupeau qui appartient à tes serviteurs, qui chavait dans l'arabe et le Knaan, parce que la famine est grande dans le pays de Knaan, et permet que tes serviteurs s'installent dans le pays de Goshen. Le pays de Goshen, c'est entre l'Égypte et le Sinaï. Ça veut dire. Bon. Et de l'autre côté, du côté de l'Égypte. Okay. Le pays de Goshen a été réoccupé pendant la guerre de Kippour. Non, pas de 67. La guerre de 73. Bon, je continue le texte et je reviendrai sur le deuxième thème. Bim Temerat, alors on continue toujours l'analyse du verset, morceau par morceau, du premier verset. Bim Temerat, avec peu de gens, que Moshe Neymar, comme il est enseigné, au nombre de 70 personnes, tes pères sont descendus en Égypte. Et maintenant, Hachem, ton Dieu, t'a placé, a fait de toi, comme aussi nombreux que les étoiles du ciel. Enfin, aujourd'hui, on est un peu trop fatigué, mais je vous indique simplement le thème général. Il fallait que la famille de Jacob soit au nombre de 70 pour que la galoute puisse commencer. Parce que 70, ça correspond aux 70 visages des nations. Okay. Je vous indiquais, enfin, sans vous donner les références, un remès dans le Zohar à ce sujet. Lorsque Joseph a envoyé dire à son père qu'il était vivant, vous verrez dans le texte, ton père n'a pas cru, tellement la nouvelle était étonnante. Joseph, qu'on a cru perdu, non seulement il est vivant, mais c'est lui qui est sur le trône de l'Égypte et qui va sauver toute cette histoire. Et alors, le Rachid Boudor met en évidence ici, c'est que lorsqu'il a vu les chariots que Joseph a envoyés à son père, à Jacob, alors le verset dit, va terrir, voir Jacob à Abiel, il a ressuscité. Et le Zohar met en évidence que le mot qui est employé pour dire les chariots n'est pas le mot habituel qu'emploie le Mikra. Comment on dit un chariot en hébreu? Char. Rechev. Merkava, un chariot. Et le mot qui est employé, c'est agalot. Et alors le Zohar dit qu'il y avait là un message secret. Agalot, c'est Aïn Galot. Les 70 doivent commencer la galot. Aïn, les 70. Bien. Alors, revenons au problème. Vaïcha et Gorgadol, la suite du verset, il fut là-bas, il devint là-bas une grande nation. Melamed, chez Ayou, Israël, Metsuyanim, Sham. Ça nous apprend qu'Israël était, vas-y, Metsuyan. Excellent. Okay. Et c'est très bien là-bas. Vous voyez, Metsuyanim, Sham. Un ridou qui est un peu une blague de Pessah, enfin de Purim. Ils étaient Tsionim, Sham. Okay. Ils étaient sionistes là-bas, Metsuyan. C'est le même mot, Tsion et Metsuyan. Tsion, c'est le prix d'excellence de l'humanité. Et alors, Melamed, Shayu, Metsuyanim, Sham. Mais rappelez-moi, je vous donne un verset dans le monde, cette pente de l'assimilation en élite.
C'est la même racine.
C'est la même racine, Tsion. Tsion, c'est un signe d'excellence. Tsion. Tsion, ça veut dire par excellence. Metsuyan, ça veut dire excellent. Et le Goy Gadol Ve'atzum, Shkelo Shenema, ou Bnei Israël, et les enfants d'Israël, Parou, Vaishresu, Vaïrbu, Vaïatzum, Bimon Meod, les enfants d'Israël fructifièrent, fourmilièrent, se multiplièrent, Vaïatzmu, et devinrent puissants, Bimon Meod, de plus en plus. Et la terre s'est remplie d'eux. Je vais arrêter là. Prenez un livre de Bereshit, je vais vous montrer ce verset qui est assez caractéristique. Dernier verset de la Sidra Vaïgash, c'est-à-dire le verset 27 du chapitre 47. Memzaïm, Kavzaïm. Israël Beret Mitzrayim, et Israël s'installa dans le pays d'Égypte, Beret Goshen, dans le pays de Goshen. Voyez Achazouba. Qu'est-ce que ça veut dire, voyez Achazouba, comment on traduit?
Ils ont pris possession.
Ils ont pris possession. Okay. Alors, on va voir ce que dit Rachid tout à l'heure. Voyez Frou, voyez Bouméod, et ils fructifièrent, ils se multiplièrent beaucoup. Et dans ce vrai, voyez Achazouba. Rachid nous dit. La chaude achiza. Si on devait traduire, ils en prirent possession, ce serait la chaude achouza. Achouza, c'est héritage. Le achez. Okay? Mais le achez be achiza, ça veut dire s'agripper. Le achez. Achiza. Vous voyez ce que ce verset met en évidence. C'est-à-dire, avec le temps, avec les bonnes conditions de cet exil doré, si j'ose dire, alors, tout l'objectif va changer. Alors que Jacob est descendu provisoirement pour jouer le rôle qu'il a joué, revenir, etc., qu'est-ce qui se passe? La communauté juive s'installe dans le pays d'Égypte, enfin juif hébreu, s'installe dans le pays d'Égypte et s'y agrippe. Alors ça va se déclencher, tout ce qui va se déclencher. Okay, bien, alors écoutez, je voudrais reprendre le thème de Anus al-Piyad Dibour dans une autre manière d'enseignement. Puis on va s'arrêter là ce matin, ben je suis incapable d'aller plus loin, de prendre l'air. Je ne sais pas si on vous a signalé cela, mais une remarque de la halakha, c'est que toutes les mitzvot de Pessah se font par la bouche. Vous avez signalé cela. Toutes les mitzvot concernent la bouche. Achilat matzah, on mange la matzah, on raconte la sortie des vies, etc. Et le vocabulaire qui est employé par le récit récapitule énormément d'expressions de ce genre. Que les Hébreux arrivent au bord de la mer Rouge, alors on dit Al-Sfatayam, sur la lèvre de la mer. L'endroit par lequel ils traversent la mer Rouge s'appelle Piahéout, la bouche de la liberté, Piahéout. Et voilà quel est le thème que la Kabbalah explique à ce sujet. Avant de descendre en Égypte, Israël se constitue comme peuple. En sortant d'Égypte, il peut recevoir la Torah. Et le résultat de la sortie d'Égypte, c'est que la Torah peut être dévoilée dans le monde. Et nous avons vu le lien. Il a fallu qu'un peuple ait cette expérience de Galout Géoula pour que la Torah puisse lui être révélée. Okay. Parallèlement dans l'histoire de Moïse, ce Moïse qui sera lui le porte-parole de la Torah est incapable de parler. À partir de la sortie d'Égypte, Vaïdaber Moshe le Béné Israël. Il parle. Vous avez remarqué le problème. On dit que Moïse ne pouvait pas parler. D'ailleurs, quand Dieu s'adresse à lui au moment de la vision du buisson ardent, pour lui dire va délivrer mon peuple, il dit mais je ne sais pas parler. Et ne croyez pas que Moïse ne savait pas parler parce qu'il bégayait. Moïse, c'est la sagesse totale. Et la sagesse totale empêche de parler. Alors, c'est tout le contraire. Comprenez ce que je dis. J'ai entendu une fois de Boubert. Vous savez qui c'est Boubert ? Martin. Il dit une chose, une jolie chose. Il dit il y a des silences vides et des silences pleins. Vous comprenez la différence ? Les silences vides, c'est quand quelqu'un ne parle pas parce qu'il n'y a rien à dire. Et les silences pleins, c'est parce qu'il y a trop à dire. Là, il y a plus dans la pensée que dans la parole. Alors quand la pensée est totale, elle n'arrive pas à s'exprimer. Okay. Donc il faut que Moïse descende au niveau du langage pour pouvoir commencer à parler. Il faut que la bouche s'ouvre. Voilà, le thème général que je vais vous expliquer, c'est cela. Pessah, c'est que la bouche s'est ouverte, et que la parole a pu. Bon. Quelle parole ? Alors, le mot de Pessah est dit comme ça. Pessah, ça veut dire l'enjambement. Okay. L'enjambement. Pessah, c'est ivri, la havor. Okay. Il n'y a qu'un hébreu qui peut faire Pessah. C'est pourquoi il faut être circoncis pour participer au Pessah. Vous connaissez ça ? Alors, Pessah est comme ça. Pessah. Pessah, c'est la bouche. Et Sar, ça veut dire pur. Jusque-là, la bouche était mauvaise. Elle n'arrivait pas à parler. C'est P, Ra. C'est une lettre de Paro, vous voyez. Paro, c'est P, Ra. Mais Pessah, c'est la sortie. Alors, voilà quel est le thème. Que la Torah enseigne que Dieu a créé le monde par sa parole. Et donc, depuis la création du monde, la parole de Dieu est exilée dans le monde. Voilà, vous avez l'essentiel du thème. Il faut donc aller où elle est exilée pour la délivrer. C'est-à-dire, la sortie d'Égypte, c'est la délivrance de la parole. Un peu comme on dit en français, délivrer un message. C'est-à-dire, la parole est prisonnière, elle n'arrive pas à s'exprimer parce qu'elle est enfouie dans l'impureté d'une civilisation qui n'arrive pas encore à dire le sens de l'histoire du monde, comme l'hébreu va pouvoir le dire au moment où il sera capable de cette révélation. Mais cette parole, elle est là, dans la périphérie du monde. Et Jacob, je reprends la formule, est descendu à nous, Salpi à Dibourg, c'est-à-dire cette parole qui attend de se faire délivrer l'oblige à venir, l'appelle.
Est-ce que c'est clair ?
Je vous mets un exemple dans le. C'est-à-dire, après chaque événement de fin d'exil, de Géoula pour Israël, il y a une Torah qui est délivrée dans le monde. J'ai compris ça. Et tout se passe comme si les lettres qui vont faire les mots, enfin c'est une image, sont prisonnières et dans les civilisations en gestation, et que Israël descend là pour ouvrir la bouche, pour délivrer la parole. Ça fait ça. Alors regardez bien dans les termes. Anus al piadibur. Jacob est descendu, anus, obligé par la bouche de la parole qui veut être ouverte. Vous avez compris dans cet autre langage, qu'est-ce que ça veut dire Pessah ? Ça veut dire le fait d'ouvrir la bouche du monde, d'ouvrir la bouche de l'humanité. Et effectivement, c'est ce qui se passe réellement dans l'histoire. Et après la sortie d'Égypte, tout ce qui était non dit, impossible à dire, va pouvoir être dit. Vous voyez comment les thèmes se recoupent. C'est vrai, en fait aussi que l'exil, la diaspora d'Israël se trouve être indexée, greffée sur cette diaspora de l'humanité dont nous avions parlé, au nombre de 70 d'ailleurs, et qui a fait que la langue unique ne parlait plus. Alors il a fallu rassembler les éléments de cette langue unique pour la faire part. Et pourquoi la parole a pu être parlée à partir de la sortie. Alors nous le lisons donc dans le texte, à nous, ça vient nous obliger par cette bouche de cette parole qui était muette et qui voulait parler. Bon, je vous ai un peu raccourci, mais vous avez compris l'essentiel.
Dans quelle mesure cette emphase donnée à la parole caractérise un certain éloignement du judaïsme de ce qu'on peut appeler la méditation?
Mais où tu as appris que le judaïsme c'est la méditation?
Justement, je pense que de là vient en partie l'éloignement du judaïsme de la méditation.
J'ai pas compris, explique-toi bien, je comprends pas.
Une emphase donnée à la parole, pas suivre en texte que tu viens de commenter, que ça explique justement l'éloignement du judaïsme, de la méditation, le contraste avec le christianisme.
Ah, d'accord, oui, là, maintenant je comprends. Oui. Non, c'est-à-dire, il y a aussi une parole intérieure. Okay. Il y a aussi une parole intérieure, mais ce que je veux dire plus exactement, c'est que toute la ferveur de la méditation juive, c'est l'étude de la parole. De quelle parole il s'agit ici? Il s'agit de la parole du Dieu créateur. Okay. Or, qui est le porte-parole de Dieu? C'est Israël. Mais cette parole, elle est dans le monde tout entier. Et c'est Israël qui doit la délivrer.
Justement, dans la mesure où il y a une méditation juive, c'est une méditation
sur la
qui
parole.
Tourne autour de la parole et non pas de la méditation dans le vague,
à
partir d'une pensée élévatrice.
Oui, ça c'est déjà du paganisme. C'est-à-dire, c'est prendre son imagination pour de la prophétie. Il n'y a rien de plus traître que l'imagination. Sauf l'image inassion. Enfin, l'imagination. Mais il y a beaucoup de textes qui parlent de ce problème. La vie intérieure traditionnelle juive, c'est l'étude de la parole. Et cette étude permet à la parole de se renouveler, le chidouche, mais permet à la parole d'être parlée. Mais de quelle parole il s'agit? Il ne s'agit pas du tout de la parole humaine, il s'agit de la parole créatrice, il s'agit de la parole du créateur. Bon, je crois que vous avez compris le thème, il est suffisamment d'ailleurs cohérent par lui-même, même pas besoin de commenter ou d'analyser. c'est que depuis la création, il y a un message du Créateur qu'il faut délivrer. Ce message est prisonnier par la dispersion du langage. Il faut aller le délivrer là où il se trouve. Et c'est par la bouche de Moïse que cette parole est formulée. Bon. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Vous allez prendre l'air et vous étendre et vous reposer. Est-ce qu'il n'y a pas d'air, prenez les paroles. Mais soyez au courant à 11h. Hein.